Le lac aux demoiselles de Charles Ferdinand Ramu. Il était avec ses moutons bien au-dessus des forêts, bien au-dessus des pâturages, dans ces espaces voisins du ciel, visités seulement par les nuages, où l'on voit dans le bleu les arêtes se suivre, élevant de distance en distance leurs pointes, leurs tours, leurs clochers, que la neige fait briller par places. Là-haut, tout seul, avec ses bêtes. Là où il n'y a plus qu'un pauvre gazon qui pousse dans les interstices du roc et où les moutons, seuls, viennent donner leurs coups de langue, ayant de petits sabots adroits à s'agripper aux pentes les plus abruptes. Puis tout est brouté, jusqu'à la racine, et le soleil donnant dessus fait que les dernières places vertes tournent aux roues. Alors on déménage avec les bêtes. Il levait son bâton, il courait derrière ses dos laineux qui faisaient comme les vagues d'un torrent au temps de la fonte des neiges, ayant la même couleur terreuse qu'elles, de sorte qu'on ne les distinguait qu'à peine sur les pierres calcinées où ils coulaient avec souplesse, épousant les mouvements du terrain, s'insinuant dans ses dépressions, ou bien encore refluant sur quelque épaule ronde où il semblait l'ombre d'un nuage que le vent des hauteurs déplace rapidement. On entendait le bruit des mâchoires des bêtes, le bruit de leurs sabots pressés était comme une grosse averse. Lui devant, lui derrière, vêtu comme il pouvait d'une culotte déchirée et d'un lambeau de veste, les pieds nus dans de gros souliers ferrés au cuir dur, comme de la pierre, et ses souliers grinçaient contre la roche, faisant un bruit qui se mêlait à celui du troupeau en marche, le seul bruit qui vienne là-haut troubler l'extraordinaire silence de ces lieux situés hors du monde, comme retirés de la vie. Car les forêts qui montent à l'assaut des côtes se sont depuis longtemps découragées. Certaines, plus hardies à s'engager vers les hauteurs, ont finalement renoncé et ne sont plus pour finir que quelques arbres rabougris, pauvrement éparpillés dans un couloir. L'homme lui-même, avec ses vaches, n'a pas osé monter chercher si haut leur nourriture. Plus personne, rien qu'à l'extrémité des crêtes dressées vers le ciel, ce quelque chose de gris, comme une coulée de boue qui tout à coup s'arrête, stationne longuement, et puis bizarrement remonte d'où il est venu. Il s'appelait Pierre. Il couchait dans une cabane, faite de pierres sèches empilées sous un surplomb de rochers. Il couchait sur un peu d'herbe sèche. Il n'avait pour boire que l'eau d'une source qui filtrait d'une crevasse. Pour vivre, une miche de pain noir, plate comme une roue de char, souvent vieille de 6 mois, et un quartier de fromage tout aussi dur, mangé des vers. À côté de la cabane était le parc, où il rentrait ses bêtes pour la nuit, à part quoi tout n'était que silence et solitude, au-dessus, à côté et au-dessous de lui. Il avait fini par ne plus savoir parler. Les mots qu'on échange plus bas dans les parages habités à chaque heure de la journée avaient perdu leur sens pour lui, étant sans nulle utilité, et s'ils se formaient bien encore dans sa tête, la bouche n'arrivait plus à les émettre, remplacés qu'ils étaient par les claquements de langue ou ces espèces de cris rauques dont on se sert pour remettre le troupeau dans la bonne direction. Tellement qu'il passait pour un peu simple auprès des hommes du chalet où il descendait quelquefois pour renouveler ses provisions, et il en remontait avec quelques pommes de terre ou un fagot qu'on lui donnait parce qu'il vivait lui-même dans des régions où aucun arbre ni arbuste ne pousse plus. Il passait pour un peu simple. Il prenait ce qu'on lui donnait sans rien dire et, ayant rejoint ses moutons, il allumait devant sa cabane un petit feu pour faire cuire ses pommes de terre. Alors les gens de la vallée s'étonnaient de cette lueur si haut perchée que les uns prenaient pour une étoile tombée, les autres pour un signal que des ascensionnistes adressaient, comme il arrive, à des amis restés à la maison. Un point rouge au fond de la nuit et en même temps accroché à la crête de la montagne, plus noir encore que la nuit, et qui était dans les ténèbres comme un entassement d'autres ténèbres. Une lueur rouge en haut de cet entassement, pas plus grosse qu'un ver luisant, mais d'une autre coloration et non pas fixe, car tantôt elle devenait brillante, tantôt elle diminuait d'éclat jusqu'à s'éteindre, sans s'éteindre. Un feu dans la montagne, si haut au-dessus des contrées où on a coutume d'en voir. C'est Pierre. Il est à côté de son feu. Il pèle ses pommes de terre. Il taille avec son couteau dans le fromage vieux. Il mâche lentement, assis par terre, les genoux relevés, les bras en travers des genoux, et tenant devant lui dans ses mains noires les bouchées toutes préparées. De temps en temps, on entendait un bêlement court et impérieux qu'on devinait être poussé dans votre direction par un museau grand ouvert où tremble une petite langue râpeuse. Et au-dessous venait 500 mètres de complet silence, au-dessus s'étendait un grand ciel inattentif. Aussi longtemps qu'on était à l'abri du vent, la chaleur du soleil sur les pierres était insupportable. Mais dès qu'on dépassait la crête rocheuse qui interceptait la circulation de l'air, on était pris jusqu'au-dessus de la ceinture dans ce courant d'eau glacée qui était comme un fleuve là, qui venait et puis qui venait, qui se haussait pour surmonter l'obstacle et de nouveau se précipitait en avant. On passait brusquement de l'été à l'hiver, on portait les deux mains à son chapeau pour l'empêcher d'être enlevé. Il fallait quelquefois faire un mouvement en avant pour s'empêcher d'être emporté soi-même, pendant qu'il suffisait de se baisser légèrement pour remonter dans la saison jusqu'à ses journées les plus chaudes, tandis que continuait à passer à 1 mètre au-dessus de vous et d'un même grand mouvement continu cette inondation invisible où l'on voyait quelques choucas ou bien un aigle de grande envergure penché brusquement de côté, montrant le dessous de leurs ailes, hésiter dans leur vol, et puis pris par-dessous, tournés sur eux-mêmes comme des feuilles de papier noircies, échappées d'une cheminée. Pierre avait pris place un peu en dessous de l'arête. Il entendait chanter au-dessus de lui les feuilles de schiste, verticalement dressées, que le vent émouvait, et dont il tirait une mélodie comme la langue fait de l'anche. C'était une chanson monotone qui tantôt baissait brusquement de 2 ou 3 notes, tantôt remontait la gamme jusqu'à n'être plus qu'un sifflement aigu. Il avait les pieds dans le vide. Il était assis au fin bord d'une assez haute paroi qui dominait un palier de gazon, lequel dominait à son tour un nouveau saut dans rien du tout. Toute la montagne étant faite ainsi de gradins superposés qui allaient se recourbant sur chacun de leurs côtés, jusqu'à se rejoindre ou presque, créant un espace clos et comme une manière d'orbite au fond duquel luisait doucement, comme un œil, un petit lac. Pierre tenait entre ses bras un agneau né de la veille, trop faible encore sur ses jambes pour se hasarder seul sur ses escarpements. La mer rôdait autour de lui avec des bêlements plaintifs. Pierre, pour la tenir au chaud, serrait contre sa poitrine, l'ayant recouverte d'un pan de sa veste, cette espèce de bâtis de bois grossièrement assemblé, sur lequel était comme jetée une toison toute frisée, encore humide, d'où pendaient 4 jambes tremblantes bien trop grosses pour ce peu de corps, grossièrement taillées au couteau dans un bout de planche. Mais, sous cette pauvre dépouille, était quand même une pulsation de vie, un mouvement pressé de respiration, un pouls qui battait à coups rapides. Et Pierre en était attendri. Sans savoir pourquoi ni se l'avouer à lui-même, il se passait des choses dans son cœur, tandis qu'il continuait à tenir dans ses bras la petite bête et que la mère venait tout contre lui, tendant son museau humide qu'elle avait fini par lui poser sur le genou. Alors il avait planté l'agneau sur ses jambes juste assez fortes pour supporter le poids du corps et la petite bête s'était mise à téter. Lui s'était jeté en avant, la tête entre ses mains, et accoudé sur les genoux, regardait droit devant lui. Le regard tout de suite se mettait à tomber et, par des sauts successifs, il allait encore, cédant à l'appel de la profondeur, jusqu'à se heurter à ce petit lac. Il devait être 3 heures de l'après-midi. Le soleil, au-dessus de vous, commençait à pencher du côté de l'Orient, comme un fruit au bout de sa branche, si bien qu'à votre droite les rochers étaient éclairés de face vivement, mais qu'à votre gauche ils entraient peu à peu dans l'ombre, devenus légèrement bleus, comme faiblement voilés par un pan de mousseline. Le lac était encore en pleine lumière. On hésitait sur sa couleur, car il était bleu par reflet, mais quand on pénétrait dans sa profondeur, grâce à un rayon de soleil qui y perçait un trou où le regard n'avait qu'à se jeter, il était vert, et d'un vert trouble. Parfaitement lisse d'ailleurs, avec une surface parfaitement tendue qu'aucun remous ne venait déranger, plat et rond, mais comme bombé à cause de ses bords plus sombres. Pierre se demandait, est-ce grand ? Par comparaison avec les arbres ou les rocs d'alentour qui pouvaient servir d'échelle, on le jugeait devoir être assez grand, en même temps que, vu ainsi d'en haut, il semblait être tout petit. Pierre se demandait encore, est-ce que c'est profond ? Et, se laissant descendre avec son regard, à l'occasion d'un rayon de soleil, dans cette profondeur sans trouver le fond, « Oh oui, pensait-il, c'est profond, » tandis qu'il sentait un frisson lui passer entre les épaules. L'agneau tétait à côté de lui, couché sous le ventre de sa mère, le troupeau paissait tranquille sur une assise de gazon, et lui, passant avec son regard par-dessus, continuait à interroger l'espace, ramenée sans cesse à cette eau comme morte et cependant pas morte, dont le soleil allait quitter l'une des rives, pendant que l'ombre, peu à peu, comme une paupière, se refermerait sur elle. À celui de ses bouts qui était sous les pieds de Pierre, dont il balançait tour à tour, l'un ou l'autre dans le vide, de gros blocs de rochers, descendus des hauteurs, s'empilaient pêle-mêle. À l'autre, la forêt, par quelques arbres à demi secs et dispersés, venait jusqu'à la rive. C'est là, et entre ces arbres, qu'il les avait vus, d'abord. Deux taches claires, qui n'étaient guère plus grosses d'ailleurs que deux points, qui s'avançaient d'un arbre à l'autre, et tantôt s'éteignaient dans l'ombre, tantôt étaient rallumées par le soleil. Elles sont ainsi parvenues jusqu'au bord du lac. Pierre regardait attentivement. Ce n'est pas souvent, dans nos solitudes, même quand on dispose pour son inspection d'une vaste étendue, qu'on découvre des êtres vivants. Il se demandait, qui est-ce que ça peut bien être ? Il s'est dit, deux demoiselles, elles doivent venir du chalet. Et des demoiselles de la ville en jugeaient d'après leurs robes claires en toile, parce que les femmes du pays sont vêtues de laine et de noir. Il ne les quittait plus des yeux. Il y en avait une plus grande et une plus petite. Et le regard de Pierre s'habituant à elle, tandis qu'il le rendait plus efficace encore par un effort de volonté, il les voyait en effet maintenant avec un mouvement de jambes qui se dessinait sous la jupe mince, l'une qui allait s'asseoir sous un sapin, l'autre qui avait poussé jusqu'au bord du lac. Le lac avait l'air de l'attendre, ayant eu un frémissement quand il a reçu son image, car elle s'était penchée sur l'eau, elle s'était mirée dedans. Elle y a trempé la main, s'étant retournée ensuite vers l'autre des demoiselles. Pierre regardait de toutes ses forces. C'est ainsi qu'il a vu celle qui était au bord de l'eau s'asseoir également et porter les mains à ses pieds. Et il a vu la chose qui a suivi, qui a été qu'elle a levé les bras et qu'elle retirait sa robe, étant devenue un peu plus blanche, puis qu'elle a encore changé de couleur, puis que, tournant la tête de tous côtés sur ses épaules, elle a jeté les yeux autour d'elle. Lui est perché là-haut, sur un avancement du roc. On ne se doute pas de sa présence. Il n'est pas vu. Il voit tout. Il voit que cette dernière chose blanche avait été à son tour enlevée. Toute la montagne regarde. Et la demoiselle au milieu est rose, et non pas rose franchement, ni jaune, mais pâlement rose, dans le soleil, épeinte de soleil, comme la fleur du cognassier qui vient d'éclore. Elle s'avance à mi-jambe dans l'eau, toute la montagne regarde, elle se penche, puise d'une main, se frotte les jambes et le corps avec la tache noire de ses cheveux sur ses épaules. Puis elle s'est jetée à la nage, et alors l'eau du lac a été cassée en mille morceaux, comme quand on donne un coup de poing dans une vitre. Il semblait que les débris eussent flotté à la surface, allumés qu'ils étaient à leur tranchant par le soleil. Il y avait, non loin du bord, un bloc de rocher qui émergeait. Elle s'avance dans sa direction, elle y aborde, toute la montagne regarde, et puis, étant grimpée dessus, elle a été là, dressée tout debout, ruisselante, et les bras levés. Vue ainsi doublement, et vue ainsi deux fois, étant recommencée au-dessous d'elle par son reflet, grande à voir, belle à voir dans sa réalité, belle à voir dans son image. Il regardait toujours, il respirait avec difficulté, mais c'était déjà fini. L'ombre venait sur elle. C'est fini. On eût dit que toute la montagne s'était éteinte en même temps qu'elle. Pierre voyait noir, comme s'il eût mis des lunettes fumées, ou qu'un nuage eût passé sur le soleil. Il n'y avait pourtant pas de nuage. Tout était comme avant, sauf que la profondeur se remplissait d'ombre. Il est redescendu dès le lendemain au chalet. Le trajet prend 1h30 à la descente. Il faut 3 heures pour remonter. Lui est descendu en moins 1 heure. Il n'y a qu'à se laisser tomber. Il se disait, je la verrai, elle sera là. Il se laissait tomber de bloc en bloc, ou bien sur ces pentes si raides qu'on les touche des épaules, tout en ayant les pieds plantés en terre. Mais il est adroit et habitué. Il s'abandonnait à la pente, cédant à son poids qui vous aide et à lui seul vous tire en bas, ayant été d'abord dans les rochers, puis sur du gazon brouté jusqu'à la racine. Brûlé par le soleil, devenu comme du feutre, où vos pas faisaient silence, et on n'entendait plus que le bruit de son cœur. Il avait laissé son troupeau dans un endroit sûr d'où il ne pouvait s'échapper, pensant « Ce soir, je serai de retour, mais entre-temps, je l'aurai vu. » Il dirait au maître « Je viens chercher du pain et du fromage. » Personne ne s'en étonnerait. Et lui, il la verrait, puis remonterait, mais au moins il l'aurait vu. Il a été ainsi porté jusqu'à l'entrée de la forêt, ayant laissé le lac à sa droite, puis prenant par en dessous, il a traversé la forêt où ce qui n'en était que la fine pointe, hasardée en avant-garde, avec peu d'arbres et pas serrés, très vieux, à moitié secs, gris de barbe. Quelques mélèzes, quelques arôles, qui avaient de la peine à vivre sur ces hauteurs, il les eut donc bientôt laissés derrière lui. Là, il y a un torrent qui vous ramène sur la droite. Le chalet se présente au creux du pâturage, le chalet, les bêtes, des hommes, le chalet avec son grand toit surbaissé, aplati contre terre, comme si tout le ciel et toute la montagne lui venaient peser dessus, mais avec une cheminée qui fume, et puis le chant doux à entendre des sonnailles de cuivre et de sels en fer battu au son fêlé, qu'on appelle des toupins, qui font ensemble une harmonie aux notes mal accordées, mais joyeuses, une musique pleine de trous, mais soutenue, quelque chose de majestueux qui prend naissance près de vous sur la pente qu'il y a juste derrière le chalet. Là sont les vaches, par belles files superposées. Elles broutaient à la queue leu-leu sur les petits sentiers qu'elles ont fini par se creuser avec leurs sabots, sans quoi elles ne pourraient pas se tenir debout. Vues de côté, avec leurs belles robes tachetées, ou brunes, ou toutes noires, qui luisaient dans le soleil. Pierre venait pendant ce temps. Le maître se tenait debout sur la porte du chalet. Il venait, le maître l'avait vu venir et l'attendait. Pierre venait, il ne disait rien, le maître ne disait rien non plus. Pierre venait et, tout en venant, il regarde. Il regarde tout autour de lui, sans rien voir autre chose que l'étagement du troupeau dans le battement des sonnailles, parmi les temps et les mouches. Dans une terre qui devenait bourbier, avec de grandes plantes, aux larges feuilles, et des cochons qui se vautraient dans une mare. Mais elle, où est-ce qu'elle est? Il n'y avait personne. Il a dit au maître, « J'ai plus rien. » C'est au maître qu'il parle. Le maître retire sa pipe de sa bouche. « T'as plus rien? T'as déjà tout avalé? T'as bon appétit, garçon. » Le maître reprend, « Qu'est-ce que tu veux? Comme d'habitude. » Ils n'ont pas grand-chose à se dire. Le maître est rentré dans le chalet, et pendant qu'il est en train d'aller chercher les miches dans la huche et de tailler dans la pièce un quartier de fromage, Pierre de nouveau regarde. Il regarde de tous les côtés tant qu'il peut, si par hasard elle ne serait pas là. Et il l'a vue, si c'est bien elle. Et c'est bien elle, elles sont deux demoiselles comme la veille, une grande et une petite. Mais il ne les reconnaît plus. Elles sont au-dessous de lui, dans le creux du pâturage, où elles se tiennent baissées, cueillant des fleurs pour en faire un bouquet, deux demoiselles, dont la grande, mais grise, est teinte, à cause d'un manteau qu'elles se sont jetées sur les épaules, grise et toute petite, allant et venant parmi l'herbe où les fleurs jaunes sont comme les étoiles au ciel par une belle nuit d'été. Mais elles sont tristes à voir. Et il pense, non, ce n'est pas elles. Pendant que le maître revient et lui tend les provisions que Pierre introduit dans son sac de toile, il ne dit rien et on ne lui dit rien. Ayant eu d'abord l'intention de faire un détour pour voir de plus près les deux demoiselles, la grande en particulier, mais il y a renoncé, tout à coup. Il les a seulement montrées du doigt, au maître. Qui sait ? Des visites. C'est tout. Il n'a plus qu'à s'en retourner. Elle est longue, cette montée. Une grande fatigue est dans ses jambes, ou bien elle est logée dans sa tête. Si vite qu'il allait à la descente, c'est avec autant de lenteur qu'il fait le chemin en sens inverse maintenant. Le sac pèse. Il fait chaud. Les mouches font méchantes. Elles tourbillonnent autour de lui. À mesure qu'il se déplace, elles se déplacent également et d'une même quantité, faisant autour de lui une espèce de mousseline dont il cherche à se défaire, sans y réussir, par de grands gestes des deux bras. Il lève un pied en pliant le genou, et le corps ne suit qu'avec peine. Une marche d'escalier, une autre, combien y en a-t-il en tout ? Il a de l'eau salée dans les yeux, elle lui coule le long des joues et dans la bouche, elle lui pend au menton, elle tombe faisant des ronds noirs sur la pierre grise. Il est faible et découragé, comme si quelque chose manquait, maintenant, dans sa vie. Les moutons, quand il a été de retour, se sont rassemblés, en bêlant, autour de lui. Il les écarte à coups de pied, il voit l'agneau qu'il tenait dans ses bras la veille, essayer en titubant de se tenir debout, à côté de sa mère. Il le chasse dans le parc, avec le reste du troupeau, sans plus s'occuper de lui. Il voit son feu qui s'est éteint, ce n'est plus qu'un rond noir, avec un peu de cendre autour, il ne l'a même pas rallumé. Les pommes de terre sont mangées. Il va à la source parce qu'il a soif et boit longuement au creux de sa main. Seulement, le lendemain déjà, il a été reprendre la place qu'il occupait la veille et il s'est assis de nouveau sur la roche, les pieds pendant dans le vide. Au-dessous de lui, rien n'a changé. Il n'a qu'à pencher un peu la tête et laisser son regard aller, qui dégringole d'une assise de roc à l'autre, venant se heurter pour finir au petit lac qui brille là, comme toujours. Il attend. Puisque rien n'est changé et puisque tout semble attendre, peut-être bien qu'elle reviendra. Il a attendu toute cette nouvelle après-midi. Il n'est venu personne. Il a attendu encore toute l'après-midi du jour suivant. Personne n'est venu. C'est maintenant le troisième jour. Il a dû finir par comprendre qu'elle ne reviendrait pas. « Des visites, » avait dit le maître. « Les visites, c'est pour un jour, et ça s'en va pour ne plus revenir. » Alors, regardant encore une fois ce petit lac et ce beau miroir inutile qui semble maintenant lui dire « Je suis toujours à ma place, mais je ne sers plus à rien. » Une grande colère s'est levée dans sa tête. La colère l'a mis debout. Il y a une chose qu'il lui va falloir faire. Il ne sait pas très bien laquelle, mais ses mains le savent pour lui. Elles se tendent, elles le tirent à elles, elles le mènent à un bloc de rocher. Un de ces blocs à demi enraciné dans un peu de terre végétale. Et Pierre est surpris de sa force. Mais le bloc cède sous sa poussée, bascule, puis tout à coup prend son élan, et dans les parois d'alentour, de tous côtés, des tonnerres s'éveillent, répercutés par des échos, vont et viennent, s'entre-heurtent, redoublés, se mêlent, et toute la montagne s'est mise en colère, et la colère de la montagne est venue s'ajouter à sa colère à lui. Il suit des yeux le roc qu'il a précipité, et il le voit rouler, de degré en degré, entraînant après lui toute une avalanche de pierres grosses et petites, d'où s'élève une fumée grise, puis, arrivé au bord du vide, s'arrêter comme hésitant, puis prendre son élan par un bond arrondi comme fait le plongeur. Il y a une détonation sourde, tandis que Pierre éclate de rire, voyant le beau miroir de l'eau au-dessous de lui être atteint en plein milieu, avec une détonation sourde, comme dans un tir d'artillerie, et une gerbe s'en élève, retombe en gouttelettes. Il rit, il éclate de rire, la montagne rit aussi. C'est qu'elle vous connaît, c'est qu'on s'entend bien avec elle, c'est qu'on est des amis depuis toujours. Il rit, il n'est plus seul. Il va à un autre roc qui l'ébranle. Les moutons sont pris de peur et de nouveau il y a dans les airs cette chute et cette percée accompagnée d'un sifflement, tandis qu'on voit, loin en avant de soi, une masse grise fendre l'espace, puis s'abattre. Il rit, la montagne rit, et lui rit encore plus fort, parce que le petit lac est devenu méconnaissable, n'étant plus maintenant qu'une espèce de flaque sale, pareille à cette mare voisine du chalet où se vautraient les cochons. Ici se termine le lac aux demoiselles de Charles Ferdinand Ramus. Enregistré par Christiane Jehanne.